réflexion de Teilhard se fait là particulièrement profonde et centrée sur le mystère même de la foi chrétienne. Chez Teilhard, rappelons-le, vision scientifique et religieuse sont intimement liées. Pour lui, science et foi ne sont pas cloisonnées, mais dialoguent en permanence l'une avec l'autre, sont en perpétuelle recherche de cohérence et d'unité, chacune restant toutefois dans son ordre. La science ne peut aller aux limites d'elle-même sans se colorer de mystique et se charger de foi, écrit-il. Et dans la préface de 1947, qui ouvre le phénomène humain, il propose un avertissement à ses lecteurs, une belle métaphore. Comme il arrive au méridien, à l'approche du pôle, science, philosophie et religion convergent nécessairement au voisinage du tout. Elles convergent, je dis bien, mais sans se confondre, et sans cesser jusqu'au bout d'attaquer le réel sous des angles et des plans différents. Toute sa vie, Teilhard fut dominé par ce besoin de faire en lui l'unité de la connaissance du monde et de l'expérience de Dieu. Au-delà de cette recherche d'unité intérieure, il y avait aussi dans cette quête un second motif: donner une raison d'être à son engagement dans le monde et plus largement à tous ceux qui, comme lui, œuvraient sur ce terrain. Il s'agissait pour Teilhard d'une question vitale, car, écrivait-il, l'homme ne continuera à travailler et à chercher que s'il conserve le goût passionné de le faire. Or, ce goût est entièrement suspendu à la conviction, strictement indémontrable à la science, que l'univers a un sens et qu'il peut, ou même qu'il doit aboutir, si nous sommes fidèles à quelque irréversible perfection. Ici, la vision religieuse vient prendre le relais de la vision scientifique et prospective. Et bien que ces deux champs soient en continuité l'un de l'autre, il y a changement de niveau, passage du plan de l'observable et de l'extrapolable, objet de la première section de ce chapitre, à celui de l'adhésion existentielle et de la foi qui sera l'objet de la seconde. Première section donc, que j'ai intitulée « De la noosphère au point oméga ». Dans la phase d'unification de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons présentement, la seule issue acceptable, comme il a été montré au chapitre précédent, est l'unification de communion réalisée sous l'effet des forces de l'amour. Unification respectant le principe « l'union différencie » et dans laquelle la personnalité de chacun se trouve enrichi et exalté, non raboté et appauvri. Pour que l'unification de communion se réalise, il faut que l'être humain soit animé d'un véritable sentiment d'amitié pour ses semblables, qu'il agisse, écrit Teilhard, sous l'influence d'une sorte de gravitation interne, qu'il soit attiré vers le haut par le dedans. Et justement, ce dedans est perceptible depuis les origines de l'univers, puisqu'il y a continuité, par-delà la différence de nature des forces concernées, entre l'attraction des particules élémentaires, la formation des atomes, des molécules, puis des cellules qui sont les briques de la vie, d'où jaillira la conscience. Le désir, qui culminera dans l'amour, n'est que la forme nouvelle revêtue par cette attraction au niveau des personnes. Attraction, bien sûr, qui n'est pas de type physico-chimique, ni même biologique, mais psychique et spirituel. L'amour apparaît ainsi, écrit Teilhard, comme la plus universelle et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Et il ajoute que la manière la plus expressive et la plus profondément vraie de raconter l'évolution universelle serait sans doute de retracer l'évolution de l'amour. C'est cela que Teilhard appelle la montée vers l'ultra-humain, une phase d'arrangement de la noosphère qui durera peut-être des millénaires et dans laquelle nous venons à peine d'entrer, phase au cours de laquelle, dit-il, les consciences s'illumineront progressivement entre elles par leur propre convergence. Ce rebondissement de la noogenèse est à la fois reliant et personnalisant. Il multiplie, diversifie, complexifie les relations entre les personnes, relations considérablement facilitées par l'explosion des moyens de communication dont l'Internet est aujourd'hui une illustration matérielle. Sur ce caractère personnalisant de l'ultra-humain, Teilhard insiste lourdement. À l'opposé des panthéismes et des religions orientales, l'histoire personnelle de chacun ne se termine pas par la fusion dans un grand tout. Ce qui fait l'identité ultime de chaque personne, à savoir la nature de ses relations aux autres et avec le tout autre, se trouve mystérieusement sauvegardé. Teilhard écrit « La réalité où culmine l'univers ne peut donc se développer à partir de nous qu'en nous conservant. Dans la personnalité suprême, nous ne pouvons que nous trouver personnellement immortalisés. » Au final, cette marche vers l'ultra-humain débouche en effet sur un point de convergence, sorte de centre des centres, appelé par Teilhard point oméga, lequel oriente dès maintenant la marche de l'humanité. Teilhard écrit « La convergence générale, en quoi consiste l'évolution universelle, n'est pas achevée avec l'hominisation. Il n'y a pas seulement des esprits sur la Terre, il y aura un esprit de la Terre. » Pour lui, c'est l'évolution elle-même qui se porte garante de cette convergence, comme il l'écrit dès 1924. Si l'univers a réussi jusqu'ici l'invraisemblable travail de faire naître la pensée humaine au sein de ce qui nous paraît un réseau inimaginable de hasard et de mauvaise chance, c'est qu'il est, au fond de lui-même, dirigé par une puissance souverainement maîtresse des éléments qui la composent. Dans un premier temps de la réflexion, Oméga apparaît donc comme une extrapolation naturelle de la loi d'évolution, avec sa complexité croissante et sa montée de conscience. Point de convergence des lignes d'unification discernable dans le passé, il va se présenter aussi dans un second temps comme un pôle d'attraction ou attracteur situé dans l'avenir. Oméga, celui en qui tout converge, et réciproquement celui de qui tout rayonne, précise Teilhard. Et il ajoute dans un autre essai, écrit en Chine à la même époque, « Sous quel trait, maintenant, me représenterai-je la réalité terminale, seule précieuse, qui collecte tout ce qu'il y a d'absolu dans le travail de la vie ? Inévitablement, sous ceux d'une immense unité. L'absolu vers qui nous nous élevons ne saurait avoir d'autre visage que celui du...